Bonjour à ceux que je n'aurais pas salués. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et pour ce matin, je vous propose un thème qui est celui de la réconciliation. Pas de la réconciliation entre nous et Dieu, mais la réconciliation entre les hommes. Et donc, on va parler un peu de relations humaines ce matin. Et on trouve... dans la Bible, plusieurs passages bibliques qui nous parlent des relations humaines. Et je crois que c'est pas pour rien, que c'est pas un hasard, parce que comme la météo n'est pas toujours un beau ciel bleu, hein, c'est pas toujours fixé sur un temps magnifique, mais vous avez certainement remarqué, des fois il pleut, des fois il y a du vent, des fois il neige, des fois il fait froid. Voilà, la météo varie et les relations humaines varient aussi. Hein. C'est vrai qu'alors peut-être des fois on a le privilège d'avoir une amitié depuis l'enfance qui n'a fait que de grandir avec une personne qui vous conduit jusqu'au séjour éternel. Mais des fois, on doit bien avouer que les relations humaines, elles fluctuent un petit peu comme la météo. Il y a des beaux jours et des jours un peu moins rayonnants. Donc, on va voir quelques textes bibliques qui nous parlent de relations humaines et puis aussi de réconciliation. Alors, un premier texte, on le trouve dans Romains 12. Romains 12, 9 et 10. Romains 12, 9 et 10. Et c'est vrai que quand on parle de relations humaines tendues, de conflits, peut-être qu'il vous vient un exemple plus personnel. Hein. Peut-être vous souvenez d'une relation qui est difficile, parce que je pense que les exemples dans nos propres vies ne manquent pas. On peut penser à des conflits entre amis, on peut penser à des conflits entre collègues de travail, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hein. On peut penser à des conflits entre voisins, on peut penser à des conflits dans la famille élargie ou la famille proche. Hein. On peut penser les conflits entre dans le cadre des couples, dans le cadre des enfants, dans le cadre entre parents et enfants, à tout âge. Hein. C'est des fois, malheureusement, voilà, il y a un conflit qui est là depuis l'âge jeune, qui va suivre aussi dans l'adolescence et qui se poursuivra même dans l'âge adulte. Il y a des conflits qui durent. Et je pense que c'est pas pour rien que la Bible nous enseigne sur les relations humaines. Donc, Romains 12, au verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Que l'amour soit sans hypocrisie. Donc là, notre frère Paul nous enseigne sur la voie par excellence qui est la voie de l'amour. Mais un amour sans hypocrisie, hein, ou formulé autrement, un amour sincère. Donc, on ne peut pas aimer à l'encontre de nos sentiments. On se doit d'être vrai dans nos relations. Mais quand on pense à l'amour, la Bible va encore bien plus loin, hein, parce que peut-être vous pensez à ce verset où Jésus nous a enseigné d'aimer même nos ennemis, hein, même ses ennemis, en effet. Hein. Et donc là, on voit que c'est pas simplement de l'amour sans hypocrisie, c'est quelque chose quand même qui va plus loin que ce qui peut être attaché à nos sentiments. Matthieu 5, verset 44, bon, on peut ouvrir nos Bibles, mais on reste si jamais sur Romains 12, on va y revenir après. Alors, Matthieu 5, verset 44. Alors, qui nous dit ceci? Je lis déjà le verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Aimer ses ennemis, hein, c'est quand même un programme qui n'est pas forcément dans la nature humaine, et c'est quand même un enseignement là qui va à l'encontre de la pensée de notre monde. Aimer ses ennemis, je ne crois pas que c'est couvrir ces gens-là d'affection en les serrant dans nos bras pour leur dire combien on les aime. Hein. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça, hein? À votre ennemi, vous allez et puis vous le serrez dans vos bras et puis vous lui dites « Mais c'est pas grave, Jésus m'a enseigné de t'aimer, mais je t'aime tout plein, smack, smack, smack. Hein? » Est-ce que vous pensez que c'est ça la pensée du Seigneur là? Moi, j'ai quelques doutes. Des fois, on s'arrête à ça. Hein? On est un peu radical. Des fois, on lit un passage biblique et puis on se dit « Voilà, j'ai compris. » Mais peut-être on n'a pas bien compris ce que c'est que l'amour de l'ennemi. Parce que juste un petit peu avant, Jésus enseigne Matthieu 5, verset 39. « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Ici, on pourrait traduire par « Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Si quelqu'un te gifle sur une des joues, présente-lui l'autre. Alors, dans quelle situation de la vie courante est-ce qu'on présente notre joue à quelqu'un? Si je vous pose la question comme ça. Quelque chose qu'on fait régulièrement dans notre vie de tous les jours, dans la vie de société. Dans quelle situation est-ce qu'on va tendre notre joue à quelqu'un? Vous l'avez fait ce matin, je suis sûr. Voilà, pour avoir un bec, hein. C'est une salutation, en effet. Hein. On va tendre la joue à quelqu'un, c'est à quelqu'un avec qui normalement on est en paix, quelqu'un avec qui on a une bonne confiance, quelqu'un qu'on connaît. On va tendre notre joue pour recevoir, hein, la salutation. C'est quelque chose qui se fait chez nous. Dans notre région, c'est trois, voilà. Hein. On fait trois fois, dans d'autres régions, c'est deux, peut-être ailleurs, c'est une fois, peut-être encore dans d'autres régions, c'est quatre. Mais on va tendre la joue. C'est un signe pour une salutation amicale, c'est un signe pour qui témoigne d'une relation en paix. Et je pense que c'est là ce que le Seigneur voulait nous enseigner. C'est pas tendre l'autre joue pour qu'on se fasse massacrer, hein? Non, c'est pas ça. C'est tendre la joue pour recevoir un signe de salutation amicale, de paix, de respect, d'honneur. En fait, moi je pense que c'est ce que le Seigneur ici voulait nous enseigner. Tendre l'autre joue, c'est essayer, autant que possible, de garder une attitude de paix, une relation de paix envers notre ennemi. Et ça, je crois que c'est l'aimer. C'est l'aimer, c'est témoigner de l'amour envers la personne, même si on n'a pas envie forcément à ce moment-là de serrer la personne dans nos bras. Hein, on n'est quand même pas des surhumains. Mais garder ce lien de paix, essayer de garder ce lien de paix afin que la tension puisse baisser, afin qu'on ne s'entraîne pas dans une escalade verbale et que sais-je encore. Essayer de tendre la joue, c'est avoir une attitude de paix, de respect envers celui qui m'agresse, essayer de faire diminuer le conflit. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Par amour fraternel. Paul donc ici nous enseigne sur les relations humaines, mais ici tout spécifiquement dans le cadre de l'Église et non envers le monde entier, où nous devrions être remplis d'affection pour toutes les personnes qu'on croiserait dans la rue, hein, par amour fraternel. C'est pas quelque chose que le Seigneur nous demande, d'être rempli d'amour pour tous les gens qu'on va croiser. Hein. Je veux être tellement proche du Seigneur, je veux tellement déborder, mon cœur veut tellement déborder. Tous les gens que je vais croiser, je vais les serrer dans mes bras, je vais leur faire des hugs. Alors, désolé pour la prononciation. Hein. Ça, c'est les Américains. Hein. Quand les gens, ils se connaissent, ils se serrent comme ça l'un contre l'autre. C'est très amical. Et je sais qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui font ça. Ils vont dans la rue, au nom du Seigneur, avec tout cet amour, justement, dès qu'ils croisent quelqu'un. Et vas-y que je te fais un hug et je te serre bien fort. Je crois qu'ils posent quand même la question avant pour pas s'en prendre une. Mais voilà, ils vont serrer les gens et puis témoigner l'amour du Seigneur et tout. Alors bon, désolé, mais moi je ne suis pas super convaincu par cette méthode d'évangélisation. En tout cas, je ne l'ai pas essayé et je ne pense pas que je vais l'essayer un jour. Mais parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, ou de câlinours. Ça, j'ai vu, c'est les Québécois qui disent ça, c'est les câlins. Hein, oui, on va tous se donner des câlins. On va être tellement remplis d'amour, même pour nos ennemis. Ce monde va miraculeusement se transformer. Vous verrez, ça va être magnifique. On va tous s'habiller en forme de nounours rose et puis on va partir dans la rue comme ça. Hein? Bon, moi je crois franchement, ça c'est pas l'amour que le Seigneur demande qu'on témoigne envers le monde extérieur. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur, donc par respect envers son frère ou sa sœur en Christ, nous devons user de prévenance. User, c'est donc une attitude, pas simplement avoir un jour puis ensuite oublier. Hein. User, ça veut dire que voilà, c'est quelque chose qui sera, par la grâce du Seigneur, dans notre quotidien, avoir de la prévenance, avoir de l'amour fraternel, avoir de l'affection les uns pour les autres. Et seulement, il ne faut pas confondre l'amour fraternel avec des paroles ou des gestes déplacés envers une sœur ou un frère en Christ. On doit quand même respecter aussi l'espace vital de chacun. Hein. On doit avoir une attitude qui est ici dit remplie de prévenance. La prévenance, c'est quelque part, on pourrait expliquer ça comme ça, on pourrait l'expliquer d'autre manière, mais la prévenance, c'est montrer par une attitude personnelle le chemin, le bon comportement à avoir envers son frère et sa sœur. Ça, c'est montrer aussi de la prévenance. C'est quelque part, je montre l'exemple. Je suis un peu en avance sur mon frère, sur ma sœur, pour lui montrer que j'ai une bonne attitude, que j'ai un bon témoignage envers elle ou envers lui. Hein. Je me soucie de mon frère, je me soucie de ma sœur, et je suis bien dans une relation de frère et de sœur en Christ. Donc, en général, entre frère et sœur en Christ, on se respecte. Et il en est de même, normalement aussi, dans le cadre de la famille, par la grâce du Seigneur. Donc, usons de prévenance et n'ayons pas des mots ou des gestes déplacés dans le cadre de nos relations avec nos frères et sœurs en Christ. Alors, fin de la parenthèse, revenons sur le thème central de la réconciliation. Alors, avoir un amour sans hypocrisie, comme je le disais avant, ne fait pas de nous des bisounours, mais c'est garder une juste distance avec celui qui peut nous agresser et garder, si possible, comme je l'ai dit aussi, un lien de paix avec cette personne. Mais ce lien de paix ne sera pas toujours possible. Romains 12, verset 18 nous dit ceci. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, on voit bien dans ce verset que ce ne sera pas toujours possible. On a notre part à faire, mais des fois, on a beau faire notre part, on voit bien que la relation ne raccroche pas, que la relation ne se remet pas en place, que la paix n'est pas là. Alors, quelque part, on a aussi, devant le Seigneur, cette liberté et ce droit de nous protéger aussi. On n'est pas là non plus pour se faire agresser, hein, ou pour mal comprendre ce verset justement tant l'autre jour, et faire de chaque chrétien un véritable paillasson où toutes les personnes mauvaises pourraient venir essuyer leurs chaussures sales, pardon. C'est ça. S'il est possible, et s'il n'est pas possible, le Seigneur sait pourquoi. On a le droit de prendre distance. Ça ne veut pas dire qu'on va plus prier pour nos ennemis, ça ne veut pas dire qu'on va les oublier, mais voilà, on a le droit de s'en protéger, et je pense que c'est quelque chose de même de sain pour nos vies, parce qu'autrement, on risque, on court le danger aussi d'être complètement écrasé, et submergé, et rabaissé, et c'est pas du tout ce que le Seigneur veut pour nos vies. Il veut de l'humilité, mais quand même, il ne nous demande pas qu'on se mette à genoux devant tout le monde et qu'on n'ait plus aucune identité, plus aucun honneur en nous-mêmes. Et d'ailleurs, quel témoignage on aurait par rapport au monde si en tant que chrétien, c'est juste l'image de celui justement qui tend l'autre joue pour se faire gifler et frapper, etc. Hein? On a entendu des témoignages, des gens ils connaissaient ce verset, mais tu dois tendre l'autre joue, hein. Je t'en ai frappé, je t'en ai mis une, maintenant on va voir si t'es un bon chrétien, je tends l'autre joue. Ça c'est, je crois pas du tout, la pensée du Seigneur. Marc 9, verset 50. Marc 9, verset 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Si le sel devient sans saveur, ayez du sel en vous-même. Où est la source de ce sel? Elle est en Jésus. Elle est dans le Seigneur. Et Dieu nous invite d'être en paix avec les uns et les autres. Et qu'on soit des témoins de paix, qu'on soit des serviteurs de paix. Et pour avoir une telle attitude, on a besoin de quoi? On a besoin du sel en nous-mêmes. On a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de sa présence. Parce que c'est vrai, si on est proche du Seigneur, on va avoir une attitude quand même différente. On va pas chercher à se faire justice nous-mêmes. On va pas chercher à se venger nous-mêmes. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué que dans le cadre souvent de réalisation de films d'Hollywood, on voit, il y a toujours le héros, c'est celui qui se venge par lui-même. Hein, je sais pas si vous avez remarqué. Ça finit rarement version bisounours, justement, hein, l'autre extrême. Hein. Au contraire, l'héros, c'est toujours celui qui arrive à venger sa mère qui a été humiliée, ou je sais pas quoi, ou sa femme, ou son ami, hein, ou lui-même. Il y a toujours, souvent, en arrière-plan, cette notion d'une propre justice. Le Seigneur nous enseigne pas dans cette voie-là. Il nous demande d'être des artisans de paix, d'avoir ce sel en nous-mêmes, et ce sel, c'est la présence du Seigneur dans nos vies. Et cette présence-là, on va la trouver à un seul endroit, c'est à la croix. C'est à la croix qu'on dépose, comme je l'avais prêché dernièrement, aussi nos droits. Hein? On met tout ça entre les mains du Seigneur. On veut rester vivant pour Jésus, on veut pas chercher à faire justice par nous-mêmes, mais on va laisser le Seigneur agir. Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager encore un exemple biblique de l'Ancien Testament qui nous parle de paix. Alors qu'au début, c'était tout sauf la paix dans le cadre de relations humaines, qui nous parle de réconciliation et qui nous donne, je pense, quelques bonnes pistes de réflexion sur ce que peut être la réconciliation. Alors, je vais vous parler d'une histoire qui avait pas très bien débuté entre des frères, où les frères se chamaillaient d'une manière assez forte, où il y a une tension qui a duré une vingtaine d'années entre des frères. Quels sont ces frères? C'est en fait Joseph et ses frères, hein, l'histoire de Jacob et ses 12 fils. Alors on va prendre une première lecture dans Genèse 37. Genèse 37, verset 2. Et je pense que vous le savez, Joseph était le préféré de la famille, hein, c'était le préféré de Jacob. C'était celui, Jacob, il aimait par-dessus tout son fils Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était l'aîné de Rachel. Et Rachel était l'épouse vraiment que Jacob aimait, tandis que Léa, il avait été contraint de l'épouser. Et cette préférence du père pour Joseph a amené de la jalousie dans la fratrie. Et puis, pour rien améliorer, on va voir un petit peu ce qui s'ensuit. Alors, Genèse 37, verset 2. « Voici la prospérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. » Alors, un petit rappel là, Bila, qui était Bila, c'était la servante de Rachel, avec qui Jacob avait eu deux enfants, Dan et Nephtali. Et puis, qui est Zilpa? C'était la servante de Léa, avec qui Jacob, là aussi, a eu deux enfants, Gad et Naser. Donc, pour rappel, les 12 tribus d'Israël, il y a eu 4 femmes. Hein? Donc on voit que c'est pas une famille toute facile, hein? Ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est une famille recomposée, hein? Il y a 12 enfants, 4 femmes différentes, il y a de quoi déjà là-dedans de faire de belles étincelles, de créer de belles tensions. Et puis Joseph vient y rajouter de l'huile. Hein. Il fait paître les troupeaux de son père et puis il est avec ses 4 frères là ou demi-frères, les fils de Bila et de Zilpa. Et il fait quoi? Il va ramener les mauvais propos de ses fils-là à son père Jacob. Donc il a manqué franchement de sagesse. Bon, il avait 17 ans, mais il était quand même peut-être un petit peu imbu de lui-même. Et puis, dis donc, Jacob, hein, on peut s'imaginer la suite. Tu sais pas ce que j'ai entendu, hein, franchement, alors. Hein, on bosse tous à ton troupeau, mais alors comme ils te voient, hein, moi je vais te dire. Et puis blablabla, et c'était parti. Hein. Il y avait déjà de la jalousie. Bon, hop, une couche de plus. Et puis, encore une autre. Couche de plus. Genèse 37, verset 3, la suite, Israël, donc Jacob, hein, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Hein. Vous imaginez, il y a un fils qui a un beau vêtement, et puis les autres, ils sont habillés tout sommairement, ils doivent aller s'occuper du troupeau. Et quand Joseph avait cette belle tunique, certainement il s'occupait plus du troupeau. Hein? Parce que tu peux pas garder un troupeau avec une belle tunique, ça va pas. C'est comme si tu vas un costard cravate bosser dans une porcherie. Franchement, c'est deux choses qui vont pas du tout. Donc c'est comme si on voit aussi au travers de cette tunique, c'est comme si Jacob avait mis déjà un peu son fils à part. Hein. Il préservait des tâches trop difficiles. Il y avait eu ces tensions avec les troupeaux et puis ses frères. Donc on enlève Joseph de ses basses besognes et on lui met une belle tunique pour montrer qu'il ne faut pas toucher à cet enfant. Couche encore supplémentaire, hein, parce qu'on voit quand même que toutes ces tensions familiales, elles ne sont pas nées de rien du tout. Voici que Joseph eut un songe, verset 5, et il raconta à ses frères, manque de sagesse, hein, c'est moi qui rajoute, hein, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Hein, ça lui faisait du bien, il avait eu ce songe-là alors que ses frères le haïssaient, et puis il se dit, ah, Dieu est avec moi. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Hein? Donc voilà, il y avait tout pour que la relation soit véritablement bien enflammée entre Joseph et ses frères. Et puis, vous connaissez la suite des événements, hein? Joseph va se faire prendre par ses frères, ils vont même vouloir le tuer. Ruben, qui était le fils aîné, va chercher à le protéger, mais personne va l'écouter parce qu'il n'aura plus d'autorité en tant que frère aîné. Pourquoi? Parce qu'il aura couché avec une des servantes de son père. Hein? Ça c'est avec Bila, c'est dans Genèse 35, verset 22, si jamais. Donc Ruben, il avait beau essayer de protéger son frère, ça n'a pas marché. Et Judas a eu la bonne idée de, voyant passer une caravane dans le désert, de vendre son frère à cette caravane, et ces gens-là, ils vont vendre Joseph à leur tour en Égypte à l'officier du pharaon à Potiphar. Et puis ensuite Joseph va quand même un peu prospérer en travaillant pour cet homme, puis ensuite on connaît la suite, hein, il va être accusé par la femme de cet homme, il va être jeté au moins pour 3 ans en prison, et puis un beau jour viendra sa je fais pas tout hein, l'explication, mais un peu le résumé du parcours de Joseph, viendra sa délivrance à l'âge de 30 ans, où il sera mis carrément à la place droite du pharaon, hein, gouverneur de l'Égypte, bras droite du pharaon, parce qu'il aura pu interpréter un rêve annonçant 7 ans de temps riche pour les récoltes et 7 ans, 7 années de famine. Hein. Donc là-dessus, pharaon, comprenant son rêve, va laisser à Joseph le plein pouvoir pour organiser ces différents moments et mettre au maximum du blé de côté. Et puis la famine va arriver, et au bout d'un moment, donc là on est à passer 20 ans d'histoire entre l'âge de 17 ans ici de Joseph et l'âge où enfin Joseph va revoir ses frères. Il va s'écouler un peu plus de 20 ans, et durant cette période, les choses auront mûri. Joseph aura mûri, mais ses frères aussi vont mûrir durant cette longue période. Et la famine arrive, et au bout d'un moment, elle touche aussi toute la famille de Jacob. Et Jacob, ayant appris qu'il y avait du blé en abondance en Égypte, il fait descendre ses 10 fils, pas Benjamin, le tout dernier, hein, parce que Benjamin, Jacob avait pas tout appris, parce qu'il aimait toujours plus que les autres frères, hein, que ses autres fils. Mais il garde Benjamin auprès de lui, il envoie ses 10 fils, et voici ce qui se passe. Genèse 42, verset 6. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux, en leur parlant durement. Il leur dit, « D'où venez-vous ? » Et ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Donc, Joseph, à ce moment-là, il ne s'est pas révélé. Il a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Et il a gardé ça pour lui. Et c'est quand même une attitude étonnante. Parce qu'on se rappelle que passé 20 ans en arrière, il avait eu ses visions. Et ces visions, il les avait gardées sur son cœur. Hein, c'est peut-être dans les temps difficiles aussi qu'il a traversé, quand il était en prison, qu'il a repensé aux promesses du Seigneur. Peut-être il les a méditées, il les a mûries, ces visions-là. Et il les avait certainement encore sur son cœur. Et que tout à coup arrive l'accomplissement de la prophétie, ben, je ne sais pas ce que nous on ferait en tant qu'humains. Hein, on aurait envie de crier « Alléluia !» La parole du Seigneur s'accomplit, c'est l'heure. Je vois que mes frères viennent devant moi et ils ont une attitude de respect parce que je suis le bras droit du pharaon. Hein, ils avaient une crainte même de leur frère Joseph parce qu'ils savaient que Joseph avait le pouvoir de les tuer ou de les jeter en prison. Donc Joseph ne se dévoile pas, pourtant la prophétie s'accomplit. C'est quand même quelque chose de surprenant. Et puis je fais un petit résumé de la suite des événements. vous rappelez certainement, hein, il va donner du blé dans des sacs, les frères vont repartir, et puis au chemin ils vont réaliser que l'argent était caché dans les sacs, ils vont prendre peur, ils vont quand même retourner juste vers leur père, et puis Joseph aura gardé un des frères, Siméon, parce qu'il va les accuser d'être des espions, et il va leur dire, mais prouvez-moi la vérité de vos propos en revenant avec votre dernier frère, et en attendant, moi je mets Siméon en prison, voilà, c'est la caution. Et les frères vont prendre peur, ils vont pas oser revenir parce qu'ils vont se dire, mais on nous accuse d'être espions, on va nous accuser d'être des voleurs et des manipulateurs. Donc ils vont manger leur blé. Au bout d'un moment, la famine continue, le blé ne va plus suffire, et Jacob à contre-cœur, après discussion, on va être d'accord que les 9 frères retournent en Égypte, vu qu'il y en a un qui est en prison, avec Benjamin en plus. Et puis, contre toute attente, alors qu'ils sont dans la crainte de Joseph, Joseph les accueille bien dans leur maison, leur fait un repas, le lendemain matin, tôt, les frères s'en vont, et donc aussi avec Benjamin, ils retournent dans leur patrie, mais Joseph, de la même manière, avait fait cacher aussi à nouveau de l'argent à l'entrée des sacs, et en plus une coupe en or, et cette coupe en or, il l'avait mis dans le sac de Benjamin. Et rapidement, l'intendant, les frères de Joseph venaient de quitter la ville, et très rapidement l'intendant va être informé par Joseph, et l'intendant va courir après les frères de Joseph pour les attraper et les faire revenir dans la maison, de Joseph. Et là on est dans Genèse 45 verset 1. C'est le moment de la réconciliation. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Voilà, il se fait connaître dans les pleurs, dans les cris. C'était un moment certainement très fort. Et vu que le moment était très fort, même la maison du Pharaon en a entendu parler. Il y a quelque chose de très fort qui s'est passé pour les frères de Joseph. Il y avait une réconciliation impossible à vue humaine. Mais voilà, Dieu a produit un miracle. Les frères ont pu se réconcilier. Il y a eu un long parcours. Il a fallu passer 20 ans pour que la réconciliation puisse être un jour possible. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi donc Joseph a autant attendu? Quand il a vu pour la première fois ses frères revenir à lui, c'était l'accomplissement de la prophétie. Pourquoi encore tous ces détours? Où on peut s'imaginer qu'il y a peut-être plus ou moins 2 ans qui se sont écoulés entre le moment où Joseph a croisé pour la première fois ses frères et où Joseph s'est révélé à ses frères. Alors moi, j'ai eu une pensée et je pense qu'elle n'est pas complètement infondée. Je pense que Joseph, avec toutes les tensions qu'il avait eues avec ses frères, avec tous les doutes qu'il avait eus sur sa famille, il a pris du temps. Il a pris du temps, il a mis à l'épreuve ses frères, pour voir si leur sentiment à son égard avait changé, s'il y avait eu repentance, s'il y avait eu prise de conscience. Et c'est vrai que pour une véritable réconciliation, parfois il faut du temps. Et pour une véritable réconciliation, il faut aussi une véritable repentance. Nous, humains, des fois, on veut une réconciliation rapide et on manque de sagesse. On a l'amour, c'est bien, mais il nous faut aussi la sagesse. La réconciliation, c'est pas quelque chose qui se fait forcément comme ça, tout de suite, avec une prière, et puis Dieu change les cœurs. Non, des fois, il faut du temps. Il faut un long chemin. Là, il a fallu 20 ans. 20 ans de parcours pour que les frères puissent se réconcilier et vivre à nouveau en paix. Amen. Donc que le Seigneur nous donne la sagesse par rapport à nos relations avec nos proches, et même si nous sommes en conflit, que Dieu nous donne l'amour, c'est vrai, que nous soyons des artisans de paix, mais pas seulement de l'amour, que nous ayons aussi de la sagesse, afin de discerner l'attitude, la pensée des gens avec qui nous aurons peut-être envie une fois de nous réconcilier, voir s'il y a vraiment un parcours qui a été fait dans le cœur de ces gens-là, mais aussi dans nos cœurs, hein? Parce que Joseph, il avait aussi besoin de faire un parcours. Il avait aussi besoin de changer d'attitude. Son orgueil, au travers de ses 20 années, est certainement tombé. Même s'il avait une place d'autorité, c'était plus le même Joseph qu'à l'âge de 17 ans. Il avait une toute autre attitude de cœur envers les gens qui l'entouraient. Donc que Dieu nous donne sa sagesse, si on le pense aussi au niveau de l'Église, quand il y a des gens qui viennent dans notre communauté, qu'on ait la sagesse, qu'on ait l'amour, c'est vrai, parce que ça fait plaisir de voir quelqu'un qui se réconcilie avec son Dieu, mais que nous ayons aussi la sagesse, de façon à voir si la personne a vraiment quelque chose de sincère sur son cœur, ou bien si elle vient juste là par motivations diverses et d'autres. Que le Seigneur nous donne sa paix en toutes circonstances. Amen.